Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Merci d'avoir choisi BFM Business et Tech & Co, la quotidienne. Merci de nous suivre tous les soirs, du lundi au jeudi, 20h-21h30. Et vous le savez, on prend le temps chaque soir pendant une heure de débriefer l'actu, de décrypter l'actu des nouvelles technologies avec toujours des experts hyper pointus pour essayer de comprendre tout ce qui se passe avec Salim Nassur ce soir, fondateur de Mars, Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet Topos, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Nous parlions il y a un instant de l'arrivée prochaine de Fiji Simo, qui prendra d'ailleurs ses fonctions en octobre prochain, hein, Fred. Hein. Elle est toujours patronne d'Instacart.
Oui, c'est ça, elle est toujours patronne d'Instacart, voilà. Et voilà, ce sera après l'été.
Donc, on parlait d'OpenAI, et on va rester dans le domaine d'OpenAI, puisque, vous le savez, les destins entre OpenAI et Microsoft sont intimement liés depuis le début. Microsoft a donné beaucoup d'argent à OpenAI, en tout cas au début, pour justement entraîner tous ces modèles d'intelligence artificielle. Et si ChatGPT aujourd'hui est ce qu'il est, c'est sans doute à cause de Microsoft, en tout cas grâce à Microsoft, et surtout à ces milliards de crédits de cloud que Microsoft a donné à OpenAI. La question qu'on se pose, c'est comment va évoluer cette relation? Parce que d'un côté, on voit qu'OpenAI s'émancipe, commence à avoir des partenaires qui sont parfois les concurrents de Microsoft. Ça devient un peu compliqué. Et je pense que Microsoft, de manière tout à fait légitime, essaie de verrouiller, de sécuriser un petit peu ce partenariat avec OpenAI pour les années qui viennent. Et c'est un petit peu l'actu du moment, hein. On voit que OpenAI souhaite un nouveau financement, une future introduction en bourse et Microsoft dans tout ça. Enfin bref, qu'est-ce que vous en pensez? On rentre dans le dur là, non? C'est peut-être, ça doit commencer à être un peu compliqué, les discussions avec un OpenAI qui n'est plus un petit truc malléable et qui aujourd'hui est un monstre, pas aussi gros que Microsoft, mais qui impose le respect, quoi.
C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils ont mis 1 milliard sur la table à l'origine pour avoir une part des revenus d'OpenAI et aussi toucher à avoir un accès à la propriété intellectuelle, c'était un magnifique coup de la part de Microsoft, mais c'était génial.
Et puis personne ne connaissait OpenAI à l'époque.
En plus. Ouais. Donc non, vraiment, c'était bien joué, le coup de donner des crédits pour sur Azure, etc.
Satya Nadella, il les repère en 2017, hein.
Ah ouais?
Ça, c'est quand même.
Ah non, mais il est super fort.
Donc, dans tous les cas de figure, c'était. Oui, donc il est bon et c'était un super coup. Mais effectivement, comme tu le disais, aujourd'hui, est-ce que l'élève dépasse le maître? On n'est pas loin. Dans tous les cas de figure. Déjà, on se rappelle quand Sam Altman a été mis en difficulté par son board, Microsoft.
Il fait sortir, tu peux le dire.
Oui, il se fait sortir. Oui, en 24 heures. Retour, aller-retour. Hein, c'est Steve Jobs, mais version TikTok. Déjà à l'époque, Microsoft avait mis un peu de distance en disant oui, bon, on va voir. Hein. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que lorsqu'on a un seul fournisseur quelque part de solution derrière le capot, on fait quoi lorsque le moteur va être vendu peut-être à d'autres gens, peut-être racheté par quelqu'un d'autre, ou que tout simplement celui qui fabrique le moteur a envie de le proposer à d'autres? C'est un vrai souci. Donc la question aujourd'hui, à mon sens, elle est compliquée. Je pense qu'on est vraiment dans du je t'aime, moi non plus.
Il y a deux choses. Il y a d'un côté OpenAI qui veut être un peu plus indépendant, donc et notamment par son projet Stargate. Hein. Stargate, on parle pas de Microsoft, hein, on parle d'Oracle, on parle de SoftBank. Et puis de l'autre, il y a Microsoft qui est quand même verrouillé. Ils ont quand même mis de l'argent. Ils voudraient peut-être que cet argent-là soit transformé en actions. Ils veulent quand même verrouiller un peu la techno.
Et puis continuer à avoir une relation privilégiée avec OpenAI, parce qu'ils ont eu une relation privilégiée.
Montrer un peu qu'ils optimisent un peu leurs investissements, dès le départ. Et puis, il y a Microsoft aussi, il faut voir aussi son intérêt. Peut-être réduire aussi son lien avec OpenAI. Vous avez vu, tout le monde se rend compte qu'aux États-Unis, là, on a un peu marre des grands conglomérats. On veut un peu casser les monopoles et se dire, tiens, si on devient trop proche, qu'un jour on nous dise, il faut que vous les rachetiez, mais après on va devenir trop gros. Voilà, donc il y a peut-être aussi cet effet. Enfin, ce serait trop cher pour les racheter, mais enfin, une alliance forte. Et Microsoft se méfie un peu aussi peut-être de ça, de se dire attention de ne pas être le grand conglomérat archi-dominant et de se faire de nous dire un jour, tiens, vous êtes copain d'OpenAI, mais il faut lâcher ça, ça et ça. Enfin, un peu comme on demande à Google de lâcher Google Chrome. Maintenant, je pense que ça va être compliqué, les droits de vote, la structure capitalistique. En plus, on voit. On en a suffisamment parlé ici la semaine dernière, OpenAI, utilité publique, mais une partie commerciale. Ça va être...
Il paraît que les relations seraient tendues, voire froides entre les deux. Rappelons quand même qu'il y a un peu plus d'un an, Satya Nadella était venu à la rescousse de Sam Altman.
C'est lui qui le sauve.
C'est lui qui le sauve. Donc on voit quand même, la proximité entre les deux boîtes. Et là, d'un coup, c'est plus la même histoire, finalement. Ouais. Un an après.
Bah, c'est exactement ce que tu disais, hein. C'est « je t'aime moi non plus », là où tu as complètement raison, Fred, c'est qu'il y a des aspects légaux, avec leurs contrats, avec ces histoires de conglomérats, etc. Il y a un aspect produit, où aujourd'hui, les deux sont intimement liés, en fait. Hein. Si t'enlèves,
partenaire et concurrent.
Voilà, si tu enlèves Azure et toutes les infrastructures de Microsoft, il n'y a plus d'OpenAI, en fait. Hein. Et si tu enlèves OpenAI, il n'y a plus de Copilot. Donc, ils sont très, très liés au niveau produit. Et enfin, il y a l'aspect business, et c'est là où je pense que ça commence à clasher. Et tu vois, on commence à le voir sur des grands comptes où le core business de Microsoft, c'est quand même faire de l'enterprise. Et aujourd'hui, ils se retrouvent face à OpenAI dans des grands comptes où ils sont en train d'essayer de placer du Copilot, et de l'autre côté, tu as ChatGPT qui vend aussi en direct. Mm-hmm. Donc là, qui est-ce qui prend le contrat, tu vois?
Ouais, et puis sur Azure, ils proposent plein de modèles. Ils proposent même du DeepSeek, ils proposent du Perplexity, ils proposent pas mal de choses. Donc être trop attaché à OpenAI, donc c'est intéressant de voir ce qui peut se passer. Et puis tout ça aussi, je pense qu'au-delà de tout ça, il faut avoir tous les histoires de gros sous, quoi. Est-ce que Microsoft, il y en a un qui a besoin d'argent, Microsoft ne va pas non plus être une vache à lait, ils ont déjà mis de l'argent là. Donc après, il faudra voir comment s'est monté Stargate. Peut-être que Satya Nadella était un peu vexé qu'on ne lui ait pas proposé.
Vous y croyez toujours à Stargate? Je sais pas, vous pensez que c'est 500 milliards?
Ils ont mis 100 quand même déjà.
SoftBank a mis 100 milliards.
Je te retourne la question, pourquoi tu n'y croirais pas?
Je sais pas, parce que je trouve que c'était une annonce avant tout politique, faite par Donald Trump.
Mais 100 milliards, c'est déjà enclenché, hein. Il y a plein de choses chez Oracle et déjà.
Ok, d'accord.
Mais t'es obligé en fait. Il faut qu'ils gonflent l'infrastructure. Dans le chemin qu'ils ont pris, ils n'ont pas d'autre choix que de gonfler l'infrastructure au niveau des data centers, au niveau de l'énergie.
D'accord.
Okay. Non, je pense qu'il y a... Après, Damien. Les parcs aujourd'hui, Microsoft, dans OpenAI, ça peut être un moyen de négocier. Autrement dit, de se dire, OK, on a mis sur la table, on a une partie de vos revenus, une partie de votre IP, donc peut-être que si on lâche un peu la bride, on peut négocier le fait qu'on puisse continuer à utiliser la techno. Mais bon, c'est reculer pour mieux sauter. Microsoft, dans l'absolu, n'a pas aujourd'hui de moteur en propre de LLM. Peut-être qu'ils veulent passer à la solution d'après, peut-être pas.
Moi, je pense qu'ils sont en train de bosser dessus. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais en fait, personne n'a vu le truc. Ils ont quand même fait une espèce de co-acquisition de Inflection AI,
oui,
avec leur patron qui est quand même devenu CEO de Microsoft AI. Donc, je pense qu'ils sont en train de construire quelque chose quand même à côté, parce qu'il n'y a pas que des mauvais qui sont venus dans l'escarcelle de Inflection AI, et ils sont en train de préparer la suite, parce que se dire qu'ils sont que dépendants de ChatGPT, en effet, c'est compliqué.
Et honnêtement, j'ai grande confiance dans le patron de Microsoft.
Ah oui.
Parce que c'est quand même lui qui a sauvé la boîte. Hein.
Ah oui, non, mais
donc,
c'est incroyable.
Il a fait un
non, mais en plus,
dingue.
Et Satya Nadella est vraiment brillant.
Il a une vision.
Je vous conseille, encore une fois, mais on l'a déjà passé en rediff, mais pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui n'ont pas vu cette émission-là, on a fêté les
50 ans de Microsoft.
On avait des anciens patrons de Microsoft. Et il nous a raconté comment Satya Nadella était dans le coup depuis un moment, quoi, et comment la montée peu à peu, et puis avec Brad Smith, enfin comment ils sont arrivés derrière pour reprendre un Steve Ballmer qui était pas bien vu par tous les techniciens, mais qui avait quand même aussi porté la boîte, mais qui est arrivé, qui à un moment a dû gérer à Microsoft les années noires, hein, entre 2006 2011,
qui a complètement raté le virage du mobile,
il y a plein de choses, et Satya Nadella est arrivé, pour rappeler juste le rôle de Satya Nadella.
Voilà pour cette actu. Bon, les semaines qui viennent seront sans doute assez...
Mais ça risque de friter quand même.
Ouais, ça risque.
Je pense que le temps est lourd.
Et j'espère qu'on aura quelques...
Donc la lune de miel est terminée.
J'espère qu'on aura quelques petites informations croustillantes à vous raconter et analyser. On enchaîne avec Apple, tiens. Apple qui ne va pas laisser Meta tout seul sur la route du succès concernant les lunettes connectées. En tout cas, c'est l'info qui tourne actuellement et qui... semble être assez réaliste, finalement. Apple est en train de préparer un nouvel objet, et ce serait des lunettes connectées. C'est intéressant de voir ça dans le contexte où Meta est en train de récolter, finalement, les fruits de ces investissements massifs dans les lunettes connectées, avec les Ray-Ban Meta. Le premier modèle qui était sorti il y a 2-3 ans n'avait pas rencontré de succès du tout. Le deuxième modèle est sorti et là, carton plein, des millions d'exemplaires de ces lunettes ont été vendus. Rappelons ce que c'est, hein, c'est des lunettes qui ressemblent à des Ray-Ban en fait, sauf qu'elles ont des petites caméras.
Voilà.
C'est les lunettes que tu portes en ce exactement moment d'ailleurs, hein, Salim, avec des petites caméras sur les côtés, des haut-parleurs qui sont là.
Quelqu'un qui vous parle.
C'est ça. Et vous avez des petits micros aussi qui vous permettent d'avoir des lunettes connectées et en plus de ça, avec la nouvelle mise à jour, on peut être connecté à l'intelligence artificielle de Meta et l'IA va analyser ce que vous regardez grâce aux caméras et ça peut être intéressant d'avoir des informations supplémentaires sur ce que vous prenez en photo ou ce que vous êtes en train de filmer. Bref, je pense qu'Apple est en train de voir le succès de Meta et se dit, Fred, pourquoi ne pas aussi se lancer là-dessus et oui avoir notre paire de lunettes connectées ? On a réussi la montre. Bah, allons sur un autre sujet lifestyle, les lunettes connectées.
Oui, mais plus c'est que... Alors, première chose, réfléchir aussi au futur de l'iPhone. Est-ce qu'on aura toujours besoin d'un iPhone un jour ? Et les lunettes pourraient bien être un remplaçant ou en tout cas un complément potentiel. Mais moi, je pense qu'ils ont aussi... Et tu parles de la montre, le parallèle est intéressant. Je pense qu'ils sont en train de viser un créneau aussi important, c'est la santé. Parce que les lunettes, évidemment, alors il y a les lunettes de soleil, mais les lunettes, c'est pour mieux voir. Maintenant, c'est même pour mieux entendre. Et je pense que là, ils ont un vrai créneau. On l'a toujours dit, hein, Apple, l'un de ses créneaux de développement, de ses axes de développement, c'est la santé. On le voit à travers la montre, on le voit à travers d'autres services.
Les seniors, Tim Cook commence à être vieux, donc il prépare ses objets high-tech pour lui, en fait.
Mais tu sais qu'en Chine, enfin, les Asiatiques ont une morphologie, tu vois, qui fait qu'il y a beaucoup de myopes en Asie.
Oui.
Et là, enfin, marché conséquent.
C'est à cause des écrans. Les enfants ont de la myopie.
Pour rejoindre ce que tu dis sur la santé, on le voit aujourd'hui, la dernière version des AirPods intègre une fonction qui, on va dire, améliore l'audition.
C'est pas des vraies prothèses audio.
Non, mais on peut même faire des tests audio pour voir si on entend bien.
On peut faire des tests audio et ça peut aider si on a des petites déficiences sonores. Donc c'est intéressant, ça va dans ce sens-là. Moi, la question que je me pose, c'est la largeur du marché. Apple investit des marchés où en fait il va y avoir un produit d'usage. Tout le monde n'a pas des lunettes aujourd'hui. Sauf avec quoi moyen de faire en sorte qu'on puisse le porter. Non, tout le monde n'a pas de lunettes. Tout le monde n'a pas de lunettes au quotidien.
Je te laisse
finir. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, t'as trois clés dans le modèle d'Apple.
C'est pour ça que je te dis le monde de la santé.
Oui, c'est pour ça. Là, il y a une clé peut-être. T'as trois clés dans le modèle d'Apple. T'as l'écosystème, t'as le Think Different et t'as la confidentialité des données. Donc, t'as l'écosystème. Donc, on peut imaginer un appareil, quel qu'il soit, connecté, comme la montre au début qui était tributaire du téléphone, etc. Ok, ça marche.
Et ils ont déjà le Vision OS.
Oui, deux, ils ont le savoir-faire du Vision OS, le Vision Pro qui est un savoir-faire en fait en termes technologie, pas de problème. Moi, la question que je me pose, c'est le Think Different. Autrement dit, ils ne sortent pas un produit pour un produit. Ils sortent toujours un produit qui vise quelque chose de particulier.
La santé.
Et peut-être que la santé, qui est d'ailleurs effectivement une autoroute aujourd'hui pour Tim Cook, peut être une clé, c'est hyper intéressant, tu as entièrement raison. Et troisième élément, c'est la confidentialité des données. Est-ce que les potentielles lunettes d'Apple auraient des caméras sur le devant? Je me pose la question, parce que typiquement, ça va à l'encontre de la philosophie d'Apple. C'est un vrai questionnement.
T'as raison.
Mais c'est un vrai questionnement, cette notion-là.
Non.
Donc quoi?
Mais non.
Attends, dernier termine, après tu
il faut trouver un marché de masse sur lequel il est légitime d'avoir des lunettes, de porter des lunettes. Pourquoi pas la santé? Avec cette notion de ces lunettes apportent quelque chose de différent, et c'est pas juste, même si c'est un coup de génie de prendre les Ray-Ban, hein, mais c'est pas des lunettes. En plus, avant Ray-Ban, il y a eu les Spectacles de Snap, ça a pas marché. Ouais. Il y a plein d'autres marques qui ont essayé.
Les Google Glass,
mais ça c'est encore, ouais, c'est encore
ça,
une autre histoire. Et trois, il y a cette notion de confidentialité des données.
Il y a
ces trois clés à avoir en tête, et Apple ne fait jamais ce que font les autres de la même manière. Et c'est vraiment cette clé-là qu'il faut avoir en tête.
En quoi l'Apple Watch était différente des autres Watch?
Parce que c'était c'est une montre qui capte les différents... Enfin, ça a été les premiers à se positionner sur ce marché de la montre capteur, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont le premier fabricant de montres.
J'avais déjà ça sur mes montres avant Apple Watch.
Non, mais on va dire que l'expérience utilisateur...
Non, mais c'est été... là où je vous rejoins. L'expérience utilisateur est bonne.
Un smartphone dans la main. Ça, c'est un smartphone.
Non, ça, c'est une mini-tablette, d'ailleurs.
Ça, c'est... Oui, c'est ça. Dans l'absolu, quand tu enlèves le bracelet, tu te rends compte que ce machin, c'est un mini-smartphone.
Ouais, ouais,
la beauté de l'histoire
non,
est là.
Non, c'est pas un mini-smartphone, parce qu'en fait, tu ne pourrais pas... Mais comme les lunettes, tu ne pourras pas utiliser que ça sans ton téléphone.
Bien sûr que
tu peux aujourd'hui.
Tu rigoles.
Avec la voix.
J'appelle.
Alors pourquoi t'as toujours ton téléphone?
Là, je suis sur mon plateau avec les petites notes.
Moi aussi, j'ai une eSIM dans... C'est une Samsung. Moi aussi, j'ai une eSIM. Moi aussi, je peux être autonome, mais tu ne peux pas te passer à 100% de ton téléphone. Sauf... comme tu ne pourrais pas avec tes lunettes. C'est juste un complément.
En revanche, dans des conditions spécifiques comme le sport,
tu ne
vas pas mettre ton téléphone.
Sauf le jour où tu commenceras à avoir des verres avec... on l'a déjà vu en test. Bon, c'est vraiment du test. J'ai grand moyen pour l'instant avec projection, réalité augmentée, tout ça.
Rappelons, Michel Lévy-Provençal est venu la semaine dernière avec une paire de lunettes d'une start-up que je ne connaissais pas et qui affiche des informations dans les verres.
Oui, mais même pas. En fait, ce sera toujours de l'information qui sera additionnelle.
Oui.
Tu te liras jamais tout un document sur tes lunettes.
Ça sera des notifs.
C'est en complément. Mais mon point, c'est de dire, aujourd'hui, sur tes... Et souvent, on est d'accord, mais là, je ne suis pas complètement aligné parce que sur tous tes points, je pense que le marché, il est de masse.
Oui.
Quand tu regardes toutes les personnes qui dépassent les 40 ans ont des lunettes, grosso modo. Donc c'est un énorme marché. Comme tu le disais, alors pas que chez les Asiatiques, mais globalement la population mondiale arrive à avoir des lunettes de plus en plus tôt parce que justement ils ont fait trop d'écran. Et donc le marché de masse, il est là. Et c'est pour ça que d'ailleurs Meta est à fond dessus. Moi, je ne serais pas étonné que Google annonce des choses à Google I.O. sur le sujet.
Des chances.
Avec Samsung, peut-être.
Voilà, exactement. Et de l'autre côté, si tu veux, sur le côté Think Different, non, moi, je pense qu'au contraire, comme sur l'iPhone, comme sur la montre, ils attendent que le marché commence à se mettre en place, qui est en train de se mettre en place avec les Ray-Ban Meta, pour y aller. Et là, je pense que ce sera un coup intéressant de leur part, plus que le Vision Pro, qui, moi, était trop, trop loin. Ça, c'est demain. Encore une fois, si vous les utilisez régulièrement, vous comprenez que c'est un truc qui va être un produit de masse. C'est un produit qui va être un produit de masse.
Oui, mais contrairement à tout ce qui est sorti. Moi, je reviens sur ce que je disais au départ, un produit de masse, mais qui va, pour moi, ça va cibler leur gros marché, ça va être les histoires de santé.
Mais aujourd'hui, 90% de mes appels, je l'ai fait avec mes lunettes. Pourquoi ? Je vais te donner un use case super simple. Aujourd'hui, comment ça se passait ? Tu reçois un appel, il faut que tu prennes tes oreillettes et tu les mets. J'ai plus jamais besoin de faire ce mouvement-là.
Parce que toi,
c'est pas une question de santé.
Apple ne va pas se couper de son marché des AirPods, qui est
florissant. Mais c'est un autre produit.
C'est un autre produit.
Il y a autre chose, c'est que toi, tu as besoin de lunettes au quotidien.
Les gens n'ont pas besoin de lunettes au quotidien. Il y a plus d'un milliard de gens sur Terre qui ont besoin de lunettes.
Juste pour téléphoner et tout ça, ils vont.
Il y a plus d'un milliard de personnes sur Terre qui ont besoin de lunettes.
Sauf Fred, si les usages que tu as dans tes lunettes sont plus importants que le fait de te dire, tiens, j'ai pas besoin de lunettes, en fait. Si demain, tu te retrouves avec une monture plutôt sympa, qui te donne un look cool, et qui t'apporte toutes ces fonctionnalités, peut-être que tu te diras, tiens, je vais porter,
ces lunettes. Je pense que leur vrai axe de développement, pour moi, ça va être là.
Pour autant,
ça va être de dire, ça n'empêche pas. Mais pour moi, l'axe central, ça va être ça. Comme la montre est en train de vraiment prendre l'axe de la santé, quoi.
Regarde, la montre, c'est le très bon exemple.
La montre, au départ, de santé, me sert à rien d'autre.
Non, mais d'accord. Mais la montre, quand tu regardes le développement de la montre, ne s'est pas fait sur les usages de santé au départ.
Oui, mais aujourd'hui, sans sa deuxième vague,
les gens vont se rendre compte.
Pourquoi tu gardes ta montre ? Parce qu'elle te donne des infos. Alors peut-être les alertes SMS, mais sinon c'est qu'elle te donne des infos santé, de cœur, de machin, tout ça.
Et toi, pas tout le monde.
Mais plus tu vis, plus t'en as besoin.
Ouais, mais encore une fois, je suis persuadé que aujourd'hui, il y aura plus de gens au départ qui seront sur des usages du quotidien, plus que sur des usages santé. Ça ne veut pas dire que en parallèle, Apple va développer cet axe santé. Je pense que ce serait smart de leur part. Mais tu auras plein d'usages.
Tu te sens pas bien, tu as un peu de fièvre. Ça va te dire, tu te sens pas bien, on va dire.
Oui, mais avant de te dire j'ai de la fièvre, tu vois, avant de te dire j'ai de la fièvre, tu te diras, tiens, regarde, j'ai mes enfants dans les bras et je dirais, prends une photo. Et là, tu as une photo. C'est un cas d'usage de tout le monde, en fait.
Alors, on est d'accord, mais je pense que vous avez tous les deux raison. C'est-à-dire que ça sera à la fois un produit santé, mais aussi un produit du quotidien qui va nous faciliter les choses. Parce que c'est vrai, comme tu disais, t'as pas besoin de mettre tes AirPods pour passer un appel. Tu as déjà tes AirPods, en fait, sur tes lunettes, sur ton nez. Ce qui va être intéressant, et la grosse différence entre Meta et Apple, c'est que Meta s'est associé à Essilor Luxottica.
Exactement. Mm-hmm.
Qu'est-ce qui va se passer avec Apple? Est-ce qu'Apple va se dire, OK, c'est pas grave, les gars. Nous, on design, on est excellent. On va faire nos propres lunettes. Mais ils ont pas la légitimité. de le faire.
Est-ce qu'ils avaient la
légitimité? Ou alors, ils vont aller voir un lunetier.
Est-ce qu'ils avaient la légitimité de faire un smartphone? Est-ce qu'ils avaient la légitimité d'aller sur les arbres, les
ouais, mais les lunettes, c'est vraiment un produit.
Est-ce qu'ils avaient la légitimité? Ils ont sorti la montre, tout le monde leur a rigolé au nez. Ouais, c'est le premier producteur de montres au monde.
Sauf que les lunettes, tu les as sur ton nez.
Attention, je rejoins notre ami.
C'est vraiment un produit fashion qu'Apple, aujourd'hui, doit faire ses preuves.
C'est fashion, Apple, c'est tendance.
Attends, il y a un truc qu'il faut prendre en compte.
C'est plus du tout la même chose.
Tu vois, j'interviens là dans quelques jours. Alors je les embrasse. iLike, qui est un groupement d'opticiens. Et c'est un autre métier, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut que tu apprennes aux gens qui te vendent des lunettes, parce que c'est pas Apple qui va te vendre. Parce qu'à un moment, quand tu fais de la correction, il faut que tu l'emmènes chez ton. Comment on appelle ça encore?
Oui, l'opticien.
Ton opticien aujourd'hui, tu vois, ça m'est arrivé, j'en avais cassé une paire. Il sait pas gérer ça aujourd'hui.
Oui, il sait pas gérer ça.
C'est-à-dire qu'à un moment.
Il sait mettre des verres sur une Ray-Ban.
Oui, mais regarde, à un moment, si t'as une branche qui est un peu tordue, qu'est-ce qu'ils font en général? C'est pas ça, c'est qu'ils la chauffent. Mais si tu chauffes de l'électronique, ça marche pas du tout. Donc, il y a un moment, il faut travailler sur toute cette chaîne pour pouvoir le faire. Donc, Apple, tout seul, ils vont pas y arriver.
Non, mais comme d'habitude, ils prendront les bons partenariats. Mais si tu veux, c'est le point ici à avoir, c'est que ce n'est pas, on va dire, fou d'imaginer de les voir rentrer sur un marché sur lequel ils ne sont pas et de se créer cette légitimité par ce fameux Think Different. On a trouvé le bon cas d'usage qui va bien et qui fait qu'on est entièrement légitime.
Bon, en tout cas, intéressant. Si tout ça se confirme, ça pourrait être en 2027, d'après ce que j'ai compris. 2026-2027.
Là, c'est dommage de terminer là-dessus parce que, pour le coup, c'est l'arlésienne à chaque fois. Ça arrive, ça arrive, et puis on ne voit jamais rien.
Ça arrivera quand
ça arrivera, je pense.
C'est loin,
c'est vrai. Il nous reste 6 minutes. J'aimerais qu'on termine avec un sujet important et grave. C'est cette volonté du gouvernement d'interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, aux mineurs donc. C'est un sujet complexe qui va bien au-delà de la tech, finalement. C'est un sujet sociétal. À quel moment doit-on confier en fait un smartphone à un enfant? On a déjà évoqué ce sujet dans Tech & Co, mais là c'est vrai que l'actualité nous rattrape. Mm-hmm. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le gouvernement a pris la bonne voie pour essayer d'interdire les smartphones aux moins de 15 ans? En tout cas, les réseaux sociaux.
Oh bon, c'est pas les smartphones, c'est les réseaux sociaux. Moins de 15 ans, qui d'ailleurs, soit dit en passant, doivent être aujourd'hui interdits aux moins de 13 ans.
Tout à fait.
Ce n'est jamais le cas.
Voilà. Ce qui n'est pas le cas.
Voilà. Le problème de l'histoire, c'est qu'on va faire un ado pibis. C'est-à-dire, en gros, déjà, un truc qui va essayer d'être une sorte de l'imagino, qui ne fonctionnera pas. Il suffit de le voir aujourd'hui sur les sites porno, où il est censé y avoir une législation. Il n'y en a aucun, quasiment aucun, qui respecte la législation qu'ils sont censés respecter sur le fait de montrer patte blanche et de l'âge, etc., pour pouvoir y accéder. Et si tant est qu'ils le font, avec un VPN ou une ou deux astuces très faciles, on contourne le système. Donc, technologiquement, c'est une course du chat et de la souris.
VPN, ça veut dire déjà, c'est plus compliqué, faut s'abonner,
oui,
il faut avoir la démarche.
Mais quand t'as envie d'y aller, tu y vas. Je veux dire, que ce soit du porno ou des réseaux sociaux, si t'as envie d'avoir ton contenu, tu iras.
Ouais, mais un VPN sur un smartphone...
Si t'as tous tes potes sur ton réseau social, tu trouveras un moyen de faire utiliser un VPN, même si t'es un gamin. Et donc, le problème, il est là. Le problème, c'est l'éducation. On file des paquets de clopes à des gamins et à partir de là, on est sur de l'addiction. Et le problème, c'est l'éducation des parents par rapport à ça. Et c'est pas facile, j'ai une gamine de 11 ans, je le sais. Donc, je veux dire, c'est vraiment compliqué d'expliquer que non, tu dois pas aller là-dessus parce que tu comprends. Voilà. Il y a donc le problème aussi des plateformes dont le modèle économique est basé sur l'attention et sur le fait de pomper cette attention. Donc, c'est inextricable comme système. Donc, c'est bien ce que veut faire Clara Chapaz, mais c'est inextricable.
Et puis, le risque d'exclusion sociale, c'est-à-dire si toi, tu vas pas avec tes autres copains, ils sont, parce que toi, tu suis l'interdiction, mais tes copains, ils sont en train de regarder ça. C'est comme à notre époque où nos parents nous disaient d'aller au lit à 8h30, et le lendemain, t'arrives à l'école, les types te racontaient: ah, t'as vu le western,
ouais, c'était
soir.
Génial et tout.
Ah, oui, c'était bien, ouais. Ouais. Oh, oui, il tirait à mon mais tu aussi cette, tu as aussi cette
effet-là.
Qu'est-ce que tu fais dans les familles? Les gamins, ils ont 9 ans, 11 ans et 16 ans. 16 ans, allez, montre-moi, hop, et c'est parti. Enfin, tu vois, c'est
il y a avant tout une question de responsabilité, d'expliquer au moins déjà que les parents puissent expliquer aux gamins, s'ils veulent aller dessus, comment ils doivent le faire.
Mais si. Mais non, mais je suis d'accord.
Ah bah alors.
Et je suis pas d'accord.
Et là, pourquoi?
Parce que ça fait depuis 2016 que j'ai compris que ça ne marcherait pas.
Qu'est-ce qui ne marcherait pas?
D'éduquer les parents. Parce que les parents sont complètement à fond dedans. Qu'est-ce que c'est un peu comme si tu dis à ton gamin arrête de fumer, mais t'es tout le temps en train
ben oui,
d'être sur.
Je suis bien d'accord avec
donc
toi.
Donc aujourd'hui, avec.
Oui, tu veux dire par là qu'en fait les parents donnent.
Il n'y a pas d'exemplarité.
Il n'y a pas d'exemple. Exactement. Voilà, donne le mauvais exemple.
Non seulement il n'y a pas d'exemplarité, mais ils ne comprennent pas les damages, j'allais dire les damages.
Dommages, oui.
Les dommages, pardon. Les dommages, voilà, les que ça génère sur leur progéniture.
Ouais.
Donc moi, j'ai toujours été très strict avec mes enfants là-dessus. Et pour ton point, bah, en fonction de l'âge, c'est pas la même chose. Et tu peux le gérer dans une famille, mais cette éducation n'arrivera pas.
Tu peux gérer, tu rigoles non, ou quoi?
Mais attends, l'éducation
de l'adulte va aller voir son grand frère.
Et non, je dis, attends, mais moi, je préférerais que l'arrache à pas, si tu veux, plutôt que d'essayer de monter une usine à gaz avec des pays européens pour essayer de bloquer un truc face à un vrai programme d'éducation. L'éducation nationale, ce serait ça le vrai truc. Et aujourd'hui, ce n'est nulle part. L'éducation au numérique.
Je vais finir là-dessus quand même, parce qu'il y a un moment, on ne peut pas à chaque fois penser qu'avec l'éducation, ça va se passer, parce que ça fait 10 ans que ça ne se passe pas. Et il est en train de se passer exactement la même chose sur l'IA. L'IA, oui, il faudrait former les enfants, mais avant ça, il faudrait former les profs, et avant ça, il faudrait former les parents. Mais en attendant, c'est les enfants qui trinquent. Bah, tout comme dans les réseaux sociaux, il y a un moment où tu dois légiférer. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis, à partir avant 18 ans, tu ne peux pas acheter d'alcool. Avant 18 ans, tu ne peux pas conduire mais de voiture. Avant 18 ans, tu ne peux pas avoir accès aux réseaux sociaux.
Non, mais et donc, oui, Damien a raison. Comment tu fais? Est-ce que techniquement, tu as une possibilité? Est-ce que tu peux obliger toutes les plateformes, comme le disait Damien, qui sont là pour justement appâter les enfants parce que c'est grâce à eux qu'ils gagnent de l'argent? Comment tu fais pour les interdire interdire la fille de Damien, par exemple, qui a 11 ans? Comment tu fais? C'est pas possible.
Est-ce qu'à un moment, ta fille peut ouvrir un compte en banque?
Aujourd'hui, sous la responsabilité de ses parents, oui, elle peut en avoir un.
À 11 ans?
Oui. Tu veux survivre.
À 11 ans, pardon. Mais par exemple.
Ouais, elle peut avoir une petite carte bancaire.
Mais si tu l'acceptes. En fait, de se dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas bloquer, c'est une.
Mais ça s'appelle le contrôle parental et les parents, non seulement, n'ont pas envie de l'utiliser.
Mais donc, existe, à un moment, compliqué. Tu vois bien que tu peux l'interdire, tout comme tu ne peux pas, toi, en tant qu'adolescent, ouvrir un compte bancaire tout seul. Et bien, la même chose, tu ne pourrais pas, dans cette loi-là, et moi je suis complètement pour qu'il y ait ce type de réglementation, parce qu'on voit bien qu'il n'y a rien qui a été fait en termes d'éducation.
Ça ne marchera pas. C'est une usine à gaz. Les politiques n'y connaissent rien. Il faut faire de l'éducation.
Mais c'est-à-dire, attends, Salim, pour que je comprenne bien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'inscris sur un réseau social, au passage, tout le monde est déjà inscrit. Donc,
c'est pas grave,
voilà.
Tu fermes.
Bon,
tous les comptes, tu fermes.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que, pour que l'inscription soit validée, il faudrait que tu envoies ta carte d'identité.
Que tu aies une reconnaissance.
Et tu sais que tout ça va être bidonné. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, avec ChatGPT, tu peux bidonner une carte d'identité.
Tu te refais une carte d'identité, au moins la photo pour.
Tu vois, ça va être un enfer à gérer.
Ok, mais parce que c'est un enfer. Mais c'est pareil, si à un moment tu veux.
Non, il faudrait trouver une autre. Je trouve que l'idée, je suis d'accord avec toi. Il faut trouver la bonne idée.
Tu peux, machin. Mais aujourd'hui, se dire que par défaut, on autorise parce que c'est compliqué, moi je trouve que c'est triste de baisser les bras là-dessus, alors que c'est un vrai problème de société.
Et qu'aujourd'hui. C'est un problème de sensibilisation et d'accompagnement. Moi je reste.
Mais ça ne s'est pas passé depuis ces 10 dernières années. Il n'y a aucune.
Parce qu'on ne l'a pas fait comme il le fallait.
Et qu'est-ce qui se passe pour tous ces jeunes qui ne seront pas formés en
Alors, il y en a certains qui baissent les bras, moi je l'élève. Et quand je l'élève, c'est que ce n'est pas bon signe, les gars.
Et moi, je.
On est hors time. Merci beaucoup, en tout cas, tous les trois. Merci, Salim, le 24 mai sur BFM Business avec sa nouvelle émission. On aura peut-être l'occasion de reparler d'ici là. Fondateur de Mars, Damien Douany, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet Topos. Et Fred, on se retrouve demain.
Oui, je suis allé tout de suite aller voir si mon fils est sur les réseaux sociaux. Il devrait réviser son brevet des collèges.
Bah écoute, il vient de poster une vidéo.
Tu peux le couper à distance.
Tu sais qu'il y a des super contenus
justement sur les révisions. C'est ça le truc.
Family League, tu coupes.
Il y a des super contenus
sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que c'est peut-être pas la majorité.